partenariat.
On y est, il est midi 30, temps universel, 13h30, ici à Paris, c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Charlotte Hydrac, bonjour à toutes et à tous. Annonce surprise cette nuit, à N'Djamena, le Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec la France. Le ministre tchadien des Affaires étrangères l'a fait savoir quelques heures à peine après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. À Paris, tout le monde est pris de court. Est-ce la fin de la présence militaire française au Tchad? Est-ce la fin de l'alliance si souvent critiquée entre les deux pays? On posera la question au chercheur Thierry Vircoulon qui est notre invité. La France va aussi devoir fermer ses bases au Sénégal. C'est ce que déclare le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Le chef d'État qui salue par ailleurs la reconnaissance par Paris du massacre de Tiaroy. Emmanuel Macron lui a écrit une lettre. Jusqu'à présent, les autorités françaises parlaient plutôt de mutinerie ou de répression. Des dizaines de tirailleurs avaient été tués par l'armée française le 1er décembre 1944 dans ce camp de la périphérie de Dakar. L'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre cette nuit. Le Tchad a annoncé mettre un terme à son accord de défense avec la France. Un communiqué a été publié vers 23h par le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamallah. Carole Valade, vous êtes en direct de N'Djamena, où cette décision a pris tout le monde de court, d'autant qu'elle intervient quelques heures à peine après la fin de la visite du ministre français des Affaires étrangères.
Effectivement, Nicolas, des diplomates à la société civile, en passant par la sphère politique, absolument personne n'avait anticipé cette annonce et les spéculations vont bon train ici à N'Djamena. S'est-il passé quelque chose lors de la rencontre entre le chef de la diplomatie française et le président, Mahamat Idriss Déby? Non, répond le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamallah, qui parle, lui, d'une décision mûrement réfléchie, annoncée.
Une décision, Carole Valade, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? La liaison vient de s'interrompre, on va rappeler Carole Valade à N'Djamena au sujet de cette annonce, faite donc après le départ du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui venait de passer 24 heures au Tchad. Il est à présent en Éthiopie. Alexandra Branjon, vous êtes justement à Addis Abeba avec la délégation française. Y a-t-il eu une réaction des commentaires du chef de la diplomatie française?
Non, aucune réaction à ce stade du ministre français des Affaires étrangères ici à Addis Abeba. Il n'y a eu aucun commentaire hier à l'issue de la rencontre entre le président tchadien Mahamat Déby et le ministre français. Rien dans l'attitude de la délégation française ne laissait présager qu'une annonce aussi forte allait être faite par N'Djamena. En revanche, ce matin, tout le monde dans l'entourage du ministre semblait pris de court. À noter toutefois qu'hier, après cette rencontre entre le chef de l'État tchadien et le ministre français, il y a eu une déclaration commune des deux ministres des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot n'a pas évoqué le sujet. En revanche, son homologue, Abderrahmane Koulamallah, a indiqué que la France est un partenaire essentiel, mais il a ajouté « la France doit considérer que le Tchad a grandi, a mûri et est un État souverain très jaloux de sa souveraineté ». Une phrase qui, après coup, prend toute sa dimension.
Alexandra Branjon, envoyée spéciale de RFI à Addis Abeba. On entendait tout à l'heure avec Carole Valade que l'annonce avait pris beaucoup de monde de court à N'Djamena. Franck Alexandre, à Paris aussi, cette rupture annoncée a étonné.
On est tombé de l'armoire, souffle de haut gradé en poste à Paris, car Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, présent hier à N'Djamena, n'a pas été informé de vive voix de ce revirement. Décision publiée sur le site tchadien des Affaires étrangères, seulement une fois qu'il était dans l'avion. Le président Emmanuel Macron non plus n'a pas été appelé par Mahamat Déby. Il n'est pas exclu qu'il se soit fait forcer la main. En tout cas, précise un observateur de haut rang, la décision a surpris tout le monde, y compris le premier cercle de Déby. Par conséquent, le flou prédomine, il règne une certaine fébrilité dans les cabinets parisiens, disent pudiquement plusieurs officiers, l'Élysée, Matignon, l'état-major des armées, les services de renseignement sont en réalité ce matin en ébullition avec une réunion de crise, un conseil de défense organisé en urgence à l'Élysée pour comprendre d'où est parti le coup.
Alors, comment, côté français, explique-t-on cette décision tchadienne.
Eh bien, Nicolas, il n'y a à cette heure aucune certitude. Alors, les conseillers listent les événements qui ont pu servir d'irritants côté tchadien. Ils notent que Jean-Noël Barrot a focalisé sa visite sur le Soudan et l'aide humanitaire. Il n'a pas assez parlé du Tchad. L'aide capacitaire française promise à l'armée de l'air tchadienne a capoté. Il n'est pas exclu que le pouvoir tchadien ait perçu l'ambition française également d'opérer une bascule de ses forces du Tchad vers la Côte d'Ivoire. Enfin, Maxime Chougalé, influenceur russe, placé sous sanctions américaines et européennes, emprisonné depuis 2 mois à N'Djamena, a récemment été libéré. Dès lors, des contacts de haut niveau entre Moscou et N'Djamena ont commencé. Mis bout à bout, tous ces éléments ont peut-être contribué à cette décision radicale.
Est-ce un retrait pur et simple du millier de militaires français encore présents au Tchad qui s'annonce, ou cet accord peut-il être remplacé par un autre?
Nul ne sait ce matin, reste que cette décision unilatérale met à mal la nouvelle stratégie d'une présence discrète en Afrique portée par Paris. Le rapport de Jean-Marie Bockel remis lundi dernier à l'Elysée semble aujourd'hui déjà caduque, car le Sénégal aussi indique ce matin qu'il ne souhaite plus de bases militaires étrangères sur son sol. L'armée et la diplomatie française, Nicolas, subissent les événements. Quant à la réaction de l'Élysée, elle se fait attendre.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, on appelle le chercheur Thierry Vircoulon, qui est notre invité. Près de 80 ans après les faits, la France a reconnu hier qu'un massacre avait bien eu lieu le 1er décembre 1944 au camp militaire de Tiaroy. Le mot n'avait jamais été prononcé officiellement à Paris. À Dakar, le président Bassirou Diomaye Faye a salué cette reconnaissance des faits. C'est un pas important, dit-il. Léa Lisa Westerhoff accueil beaucoup plus mitigé en revanche du côté du comité d'historiens et d'archivistes français mandaté par le gouvernement pour lever les zones d'ombre qui persistent autour de ce crime colonial.
Oui, un comité d'archivistes d'historiens sénégalais, Nicolas. Oui, parler de massacre relève surtout d'une évolution sémantique de la France, affirme l'historien Mamadou Diouf, qui préside ce comité de commémoration. Une reconnaissance bien tardive au final, puisque selon l'historien, dès 1944, le massacre ne fait pas de doute. Une commission d'enquête parlementaire l'avait établi à l'époque, selon lui. Que la France soit de bonne foi ou non n'est pas notre problème, a-t-il encore dit à la presse ce matin. Ce que nous voulons, c'est la vérité et toute la vérité sur ce qu'il s'est passé ce matin-là. Et c'est tout l'enjeu de ce comité composé de 6 historiens et d'un documentariste. Car vous le savez, 80 ans après les faits, les zones d'ombre restent nombreuses. Parmi les questions, combien de tirailleurs ont été tués? Où ont-ils été enterrés? Paris assure avoir remis à Dakar une copie de toutes les archives qu'elle possède sur ce massacre. Mais ces historiens sénégalais sont convaincus, comme d'autres, qu'il existe des archives cachées.
Oui, et cette question a justement... Justement, Léa-Lisa, c'était l'objet d'une mission qu'ils viennent de terminer en France.
Oui, 10 jours passés à écluser les nombreux services d'archives en France et notamment en région, celle d'outre-mer à Aix, mais aussi à Rennes et à Morlaix. Et des premières trouvailles, selon ce comité, ils affirment avoir découvert des dizaines d'actes de décès de tirailleurs africains, des tirailleurs décédés à l'hôpital de Dakar entre fin 44 et début 45. Il est trop tôt encore pour en tirer les premières conclusions, affirmé ce comité d'historiens, mais ces actes de décès permettent déjà de dire que le bilan des morts à Tiaroy est bien au-delà du bilan officiel de 70 morts. Ce sera un travail de longue haleine, a cependant prévenu cette équipe d'historiens qui compte remettre un livre blanc avec l'ensemble de leurs conclusions en mars prochain aux autorités sénégalaises.
Léa-Lisa Westerhoff en direct de Dakar. Troisième jour de la visite du président nigérian Bola Tinubu en France. Il était hier au palais de l'Élysée. La délégation nigériane est ce matin au siège du MEDEF, le patronat français, pour évoquer les opportunités économiques entre les deux pays. Lisa Fabian, vous êtes sur place. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est que le Nigeria est open for business, ouvert aux affaires.
Oui, c'est ce qu'a dit le président Bola Tinubu hier à l'Elysée et c'est ce qu'a répété ce matin encore Wale Edun, le ministre des Finances du Nigeria, devant un parterre d'hommes d'affaires français et nigérians. Le président, comme son ministre, défend évidemment les réformes mises en place depuis un peu plus d'un an et demi au Nigeria, notamment la suppression des subventions sur l'essence et la dévaluation de la monnaie nationale. Des mesures difficiles, critiquées, contestées même par les Nigérians, mais qui apparaissent comme un gage de sérieux face face aux investisseurs étrangers. Ce matin, le ministre des Finances nigérian a en tout cas souligné que le déficit budgétaire est en baisse, tout comme la part du service de la dette dans les dépenses publiques. Mais les défis sont encore très nombreux pour espérer rendre le Nigeria réellement attractif. Difficile de passer sous silence la complexité de la législation en termes de fiscalité notamment, sans oublier les difficultés logistiques ou le manque cruel d'électricité dans le pays. Deux problèmes récurrents mentionnés ce matin par les représentants des milieux d'affaires.
Lisa Fabian au siège du MEDEF. La Centrafrique renforce sa coopération bilatérale avec la Russie. Désormais, les détenteurs de passeports diplomatiques et de services n'auront plus besoin de visa pour se rendre d'un pays à l'autre. Annonce faite hier par la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Temon.
Nous créons un cadre dans lequel nous allons pouvoir échanger de manière régulière, de manière fréquente, sur tous les sujets qui touchent notre coopération. Il y a un sujet politique diplomatique, sur des sujets sécuritaires aussi, sur des sujets économiques aussi, et c'est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir travailler à construire davantage et à consolider notre coopération. Nous avons également signé un accord sur la création et la mise en place de consultations politiques. Et certains pays, notamment des passeports spéciaux, qui rentrent dans le cadre aussi officiel, pour permettre justement à ce qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les différents sectoriels, mais également les fonctionnaires, les cadres de certaines institutions qui pourront plus facilement se rendre en Fédération de Russie. Et inversement, en ce qui concerne les passeports diplomatiques et les passeports de service de Fédération de la Russie vers la République centrafricaine.
Propos recueillis par Rolf Steph Domielle. 18 jeunes Congolais arrêtés en Ouganda pour séjour irrégulier ont été extradés vers la RDC, vers Bunia plus précisément, la capitale de la province de l'Ituri, où ils ont été présentés mardi devant les autorités militaires. Ils auraient été recrutés dans un camp de déplacés du territoire de Djougou, pour renforcer les rangs de la rébellion du M23, qui est active un peu plus au sud, Passion Ligodi.
Ces 18 jeunes, pour la plupart des déplacés du territoire des Djougou, auraient été recrutés dans un camp de déplacés au nord de Bunia par un individu identifié comme un membre influent du groupe armé local Zaïre. Selon les autorités congolaises, ils étaient destinés à renforcer les rangs du M23 après avoir traversé la frontière ougandaise. Leur destination finale, les collines de Tchanzu, dans le nord Kivu, un des bastions réputés du M23. Parmi eux, on compte 3 mineurs, certains encore en âge d'aller à l'école. Des sources militaires indiquent qu'ils ont été enrôlés parfois pour moins de 10 dollars ou contre une promesse de travail. Arrêtés par les services ougandais à la frontière, ces jeunes ont été extradés vers la RDC via Arou avant d'être transférés à Bunia. Les sources du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précisent que ces personnes n'ont pas demandé l'asile en Ouganda et ne sont donc pas considérées comme des réfugiés. Présentés devant les autorités militaires à Bunia, ces jeunes ont été remis à la justice militaire pour enquête. Pour l'instant, le M23 n'a pas réagi à ces accusations. Passion Ligodi, Kinshasa, RFI.
Il est 14h43 à Bunia.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la présidentielle en Namibie, le vote est finalement prolongé jusqu'à demain. Et les sports du football, la Tunisie renonce à son tour à disputer le prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, formellement reconduite ce matin à la tête de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, son second mandat de 4 ans commencera dans tout juste un an. Affluence dans les bureaux de vote et problèmes d'organisation, les élections présidentielles et législatives jouent les prolongations en Namibie. On votera jusqu'à demain, Valentin Hugues.
Certains électeurs ont été privés de leur droit de vote, annonce la commission, parce que cette élection, qualifiée de la plus disputée de l'histoire du pays, avec le parti historique SWAPO sur la sellette, a surtout viré au fil d'attente interminable. Manque de bulletins dans certains bureaux, matériel informatique qui dysfonctionne, résultat des citoyens qui font le pied de grue toute la journée devant les bureaux de vote, qui parfois doivent patienter plus de 12 heures dans une chaleur étouffante, ou qui n'ont tout simplement pas réussi à accéder aux urnes. Les partis politiques en lice se sont rapidement indignés d'une telle situation. Réponse de la commission, prolonger le scrutin. Mais pour certains partis d'opposition, ce vote devrait tout simplement être annulé. Le processus électoral devrait recommencer à zéro. Continuons de croire que le vote est délibérément perturbé par la commission électorale pour permettre à la SWAPO de rester au pouvoir. Finalement, la commission a préféré l'option d'étendre la période du vote encore 2 jours dans une trentaine de bureaux, notamment en livrant de nouvelles piles de bulletins pour permettre à l'ensemble des 1,4 million d'inscrits d'accomplir leur acte démocratique. Reste que l'opposition pourrait ne pas reconnaître l'issue du scrutin. Valentin Huc, Johannesburg, RFI.
Toujours aucune communication officielle en Algérie sur le cas de Boualem Sansal, mais on sait que l'instruction judiciaire contre cet écrivain franco-algérien détenu depuis 13 jours se poursuit et qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Faisal Metaoui.
Boualem Sansal, arrêté le 16 novembre 2024, est à la prison de Coléa, à l'ouest d'Alger, depuis au moins 6 jours. Selon des sources informées, l'écrivain français d'origine algérienne a été mis sous mandat de dépôt sur décision du juge d'instruction du tribunal de Dalbaïda, à l'est de la capitale, après une longue audition. Les mêmes sources indiquent que Sansal est poursuivi sur la base de l'article 87 bis du code pénal pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et complot contre la sûreté de l'État. Des accusations qualifiées de lourdes par la presse algérienne qui a indiqué que la section chargée des crimes terroristes et du crime organisé du tribunal d'Alger pourrait suivre le dossier de Boualem Sansal. Le bâtonnat d'Alger aurait chargé des avocats pour accompagner l'écrivain lors d'une instruction qui risque d'être longue. La défense aurait introduit un appel devant la chambre d'accusation contre la décision de placer Sansal en détention provisoire. Habituellement, le parquet d'Alger communique sur ce genre d'affaires considérées comme sensibles. Le silence actuel serait motivé par le secret de l'instruction. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Les sports du football après l'Algérie et l'Égypte. La Tunisie, à son tour, renonce à disputer le prochain CHAN. Frédéric Suto, c'est le championnat d'Afrique des Nations dont la phase finale se joue en février prochain en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.
Oui, les clubs tunisiens ont fait plier la fédération qui souhaitait au départ que la Tunisie participe à cette édition 2025. Mais qui dit CHAN dit compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. C'est une CAN miniature, pensée pour mettre en valeur les joueurs locaux. C'est ce qui fait son charme, mais du côté des gros clubs tunisiens, Espérance de Tunis, Club Africain, Étoile du Sahel, justement, c'est ce qui pose problème. L'idée de devoir se passer de leurs meilleurs joueurs pendant un mois et demi, en janvier-février, pour les mettre à disposition de la sélection, alors qu'il y a des échéances importantes en club, était impensable. L'Espérance de Tunis aura des matchs cruciaux en Ligue des Champions, en janvier, par exemple. Les clubs tunisiens ont donc eu le dernier mot, comme cela avait déjà été le cas lors des dernières éditions. Pas de Tunisie au CHAN. Et c'est ce même raisonnement, Nicolas, qui a conduit l'Algérie et l'Égypte, vous le disiez, à renoncer également. Priorité au club. Pour la sélection, la CAN, la vraie, oui. La Coupe du Monde, oui, bien sûr. Mais pas le CHAN, pour qui seul le Maroc joue le jeu en Afrique du Nord. Ajoutons que la Tunisie, dans cette histoire, risque quand même une amende de $50 000 de la part de la Confédération africaine de football.
Frédéric Suto, il est 13h48 à Paris. Charlotte Friedrach, les grands titres de ce vendredi 29 novembre.
La trêve entre Israël et le Hezbollah, ça tient, mais les deux parties menacent de représailles en cas de violation du cessez-le-feu. Par ailleurs, en Syrie, les djihadistes et leurs alliés ont lancé l'offensive en direction de la ville d'Alep. La crise post-électorale en Géorgie, après la dispersion de manifestants la nuit dernière contre la décision du gouvernement de repousser les négociations d'adhésion avec l'Union européenne, un report à 2028. Ensuite, une nouvelle mobilisation est prévue là cet après-midi. Pas de commentaires des autorités françaises pour le moment. Après l'annonce, vous en parliez, par les autorités tchadiennes, de la fin de l'accord de coopération militaire avec Paris. Et cela juste après une visite à N'Djamena du ministre français des Affaires étrangères. En France, Emmanuel Macron à Notre-Dame ce matin. Notre-Dame entièrement rénovée après le spectaculaire incendie qui avait ravagé le bâtiment en avril 2019. La réouverture officielle est prévue le week-end prochain.
Le Tchad a donc annoncé dans la nuit la fin de l'accord de coopération de sécurité et de défense avec la France. Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, est en ligne avec nous. Bonjour Thierry Vircoulon.
Bonjour.
Une décision annoncée au cœur de la nuit, à l'insu, comprend-on, des autorités françaises. Est-ce que c'est un camouflet ?
Oui, on peut dire que c'est un camouflet parce que la coutume diplomatique aurait voulu qu'il y ait un coup de fil entre les deux présidents pour prévenir déjà, et puis surtout parce que Paris avait été très accommodant avec la transition dynastique tchadienne. Il a vraiment accompagné Emmanuel Macron, s'était rendu aux funérailles d'Idriss Déby. Paris a vraiment accompagné cette transition dynastique qui était assez largement frauduleuse. Et Jean-Marie Bockel, lorsqu'il avait été à N'Djamena, avait fait part publiquement de son admiration pour le président Déby. Donc, en effet, ça apparaît comme un camouflet après tous les efforts de Paris et la calinothérapie, dirais-je, de Paris à l'égard du régime tchadien.
En croyant en effet hein, les deux pays alliés envers et contre tout, pourquoi le Tchad prend-il cette décision aujourd'hui, selon vous ?
Je pense qu'il y a au moins deux réponses. La première, c'est que il repositionne, comme beaucoup d'autres pays dans la bande sahélienne, hein, après ce qui s'est passé au Niger, au Burkina Faso et au Mali, il avait commencé à diversifier, comme on dit, ses partenariats et donc à prendre de fait ses distances avec les Occidentaux. Il avait remis notamment en cause la coopération sécuritaire avec Washington, hein, il y a pas très longtemps. Il s'est rapproché de la Hongrie, des Émirats Arabes Unis. Lavrov est venu cette année à N'Djamena, donc on voit bien que ça fait partie du mouvement géopolitique général au Sahel où les pays, les régimes prennent leur distance avec les Occidentaux. Et puis la deuxième raison, elle est peut-être de politique intérieure, c'est-à-dire que le président Mahamat Déby veut incarner le vent du changement, mais il va certainement pas changer la mauvaise gouvernance au Tchad, et donc il faut qu'il donne des gages de ce changement, et la politique étrangère, c'est toujours évidemment la façon de donner des gages la manière la plus évidente, et de dire à son opinion publique, vous voyez, je prends mes distances avec le partenaire historique qu'est la France, et ce qui lui évitera évidemment de changer la situation politique et économique intérieure au Tchad.
Oui,
donc, au moins deux raisons.
Oui, parce que la présence militaire française est un sujet de critique hein, dans les opinions publiques et pas qu'au Tchad d'ailleurs. Et donc en prenant cette décision, Mahamat Idriss Déby compterait aussi marquer des points en interne.
Oui, tout à fait, parce que en effet, l'opinion publique tchadienne en général, hein, que ce soit opposition ou pro-régime, la critique contre la présence militaire française est généralisée, si je puis dire, et donc c'est une façon, en effet, de répondre à cette opinion publique et à lui donner ce gage-là, au moins, à défaut de lui donner d'autres avancées, notamment sur la question de la gouvernance, qui est aussi une des questions cruciales au Tchad.
Thierry Vircoulon, pour vous, est-ce que la fin de cet accord, c'est la fin de la présence militaire française au Tchad ?
Je crois qu'il faut être prudent parce qu'il y a aussi une tradition des autorités tchadiennes de dire des choses, et notamment de laisser des ministres dire des choses, puisque là c'est le ministre des Affaires étrangères et c'est par son canal que c'est sorti, qu'après la présidence contredit dans les faits ou qu'elle bloque. Dans les faits, donc là, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on peut être encore dans ce type de système.
Ah, vous n'excluez pas un possible revirement ?
Pas de revirement public, mais en tout cas que la mise en œuvre de cette annonce finalement soit bloquée ou enlisée, etc. Parce que, comme je disais, la présidence aime bien gérer les choses comme ça, souvent au Tchad, et envoyer des avertissements de cette nature. Mais on peut aussi imaginer que ça va conduire à la fin de la présence militaire française au Tchad et que les modèles du retrait vont être discutées entre Paris et N'Djamena.
La France fournissait notamment un appui aérien en matière de surveillance des frontières pour le Tchad. Ça veut dire quoi, que le Tchad a trouvé un autre partenaire pour prendre la relève ou des moyens pour s'en occuper tout seul ?
Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Il faut se rappeler quand même, et là aussi, ça, c'est pour ça que c'est un peu un choc à Paris, que la dernière intervention militaire française unilatérale pour protéger un régime, c'était au Tchad en 2019, contre où l'aviation française est intervenue contre une colonne de rebelles. Donc, c'est, ça prouve que cette question de la sécurisation des frontières est importante, que la France y avait contribué fortement, peut-être trop fortement d'ailleurs. Et là, on va voir en effet si il y a un partenaire de substitution ou non. Comme je le disais, il y a eu aussi pendant cette transition, depuis que Mahamat Déby est au pouvoir, des ouvertures en direction d'autres pays, notamment les Émirats Arabes Unis, la Hongrie et la Russie. Donc, en effet, on peut se poser la question de savoir si on ne va pas voir apparaître de nouveaux acteurs dans le paysage tchadien.
Merci Thierry Vircoulon, merci pour votre analyse. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Il se produit ce soir à Noisy-le-Sec dans le cadre du festival Africolor qui se déroule jusqu'à la fin décembre dans le nord et l'est de la région parisienne. Le Tunisien Nidal Yayaoui, véritable star de la musique chaoui, revisite le patrimoine musical de son pays en y intégrant des instruments modernes. Olivier Roger.
Ne dites pas à Nidal Yayaoui qu'il fait de la fusion. Sa musique est une transposition moderne d'air traditionnel, une adaptation qui s'appuie sur la force percussive du tbal, le bourdonnement de la flûte gapsa, auquel s'ajoute la guitare électrique et parfois même les consoles électroniques. Le chanteur des quartiers du Vieux Tunis, formé au conservatoire, musicien et musicologue, s'intéresse au répertoire traditionnel de sa région, du nord-ouest de la Tunisie, celle de Seliana, une musique proche de celle des chaouis algériens. Ce soir, il proposera au public francilien un concert basé sur le projet Masreb El Ataya, Nidal Yayaoui.
Ataya, ce sont les travailleurs saisonniers qui viennent chaque année du sud-ouest jusqu'au nord-ouest. Et on a retracé ce voyage et on a récolté les poèmes et les chansons qui vont avec. Ces poèmes et ces chansons parlent de tout, de souffrance, parlent de l'amour, même de lutte.
Un chant des moissons aux accents à la fois festifs et poignants, s'appuyant sur un répertoire qui traverse les générations.
Nidal Yayaoui à l'affiche ce soir du Festival Africolor. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure africaine, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans deux minutes, selon votre zone d'écoute, vous retrouvez Charlotte Hydrac pour le journal de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'information en full day ou notre session en langue portugaise. Très bon week-end, à lundi.
La Mastroc, Jarring FX et RFI Talent présentent Zara Electric. Découvrez Babor, le nouveau single du trio franco-marocain de Marseille. disponible sur toutes les plateformes. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père, qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Aujourd'hui, 10% de la population mondiale ne mange pas à sa faim. Alors comment allons-nous nous nourrir en 2050 quand nous serons 10 milliards ? C'est la question que le CIRAD a posée à ses chercheurs pour fêter ses 40 ans. Ils sont nos invités.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.